Jour 3 du tableau principal. Nicolas Richard, bonjour. Hugues Léger, bonjour. Les gars, êtes-vous prêts?
Ok, oui.
C'est parti!
Salut, salut les gars, très content de vous retrouver pour cette troisième journée. Comment est le niveau d'énergie? Est-ce que vous tenez la route là? Je sais que les deux, vous continuez de travailler à temps plein pendant l'Omnium aussi. Est-ce que, Nico, le niveau d'énergie est bon?
Ouais, ben c'est motivant, je trouve, de travailler en regardant du tennis. Il n'y a pas grand-chose de mieux que ça. On tient le coup, c'est une belle semaine. On fait une belle job, je trouve, en tant qu'équipe aussi. Nico et Abraham qui font un solide boulot aussi derrière. Non, ça va bien, puis je suis content d'être parmi vous, les boys.
Hugues, tu t'en sors?
Moi, je dirais que l'énergie monte de jour en jour, surtout celle que j'ai captée dans le stade hier soir pour le match de Bianca. Ça paraissait pas qu'on était 5000, il y avait plus un feeling de 10 000 personnes, donc ça nourrit tout ça.
Ben, t'étais pas tout seul à être dans le stade hier, Hugues, parce qu'il y avait quelqu'un qu'on aime beaucoup au podcast qui est venu à quelques reprises. Jean-Philippe Bertrand qui accepte de nous parler en direction du stade. Jean-Philippe, comment ça va?
Salut les gars, ça va très bien, vous-même?
Hey, ben merci de prendre du temps pour nous. Je sais que t'es pressé, tu nous prends entre deux meetings, mais j'imagine que notre amitié a fait que t'as accepté de venir nous parler, puis on l'apprécie bien gros.
Oui, ben exact. Ben oui, ben c'est un naturel. Là, je veux dire, s'il y a un temps dans l'année où il faut qu'on parle, c'est bien aujourd'hui. Moi, le niveau d'énergie, nous autres, ça nous fait, c'est sûr, des très grosses journées du côté de TVA Sport, mais on carbure à deux choses. On carbure à la caféine et à l'adrénaline. Et hier, ben, on a eu droit aux deux. En tout cas, j'ai eu droit aux deux.
Mais justement, avant qu'on rentre dans les détails, tu sais, toi, t'es un gars d'émotion, Jean-Philippe. Comment c'était l'émotion hier sur le terrain là, pendant que Bianca jouait, parce que c'est de ça dont on veut parler avec toi. Ça ressemblait à quoi le vibe sur le central?
Il y a eu l'ambiance de début de match, il y a eu l'ambiance de milieu de match, puis il y a eu l'ambiance de fin de match. OK? Je te dirais qu'en début de match, là, on se disait, bon, mais ça va être une petite marche de plaisance, là, tu sais. Et bien bonne la petite Britannique, puis abattu les là la veille, mais tu sais, là, à ce mesure à Bianca, ça va pas durer longtemps. Là, deuxième manche, le vent a comme changé de bord. Alors, l'ambiance était, je te dirais, plutôt tendue. Puis là, on dirait que les 5000 spectateurs, là, parce que j'ai pas mal l'impression qu'on était pas 5000 dans le stade hier, là, j'ai pas les chiffres officiels, mais ça sonnait comme ça, du moins. Là, on s'est comme dit, j'espère qu'on se fera pas faire le coup pour une deuxième journée de suite. Puis, lors de la troisième manche, là, puis tu sais, le facteur full, là, puis l'avantage de jouer à la maison, là, on s'en est privé, là, on y a pas eu droit pendant presque deux ans, là. Hier, il a fait la différence parce que la foule a littéralement transporté Bianca dans la troisième manche, puis chaque commande était accompagnée d'une ovation, puis... Alors, j'ai vu l'ambiance en trois temps hier et c'est sûr que la troisième phase a été la plus intéressante.
Et tu as la chance de parler aux athlètes tout de suite après leur performance. Tu as senti quoi de Bianca? Est-ce que tu l'as senti remplie de confiance pendant ton entrevue, après son match?
Ben non, pas tant que ça, non. Puis tu sais, quand tu fais une entrevue comme ça avec une joueuse, mais devant foule, t'as comme un élément additionnel que tu dois prendre en considération, puis c'est l'interaction avec le public, parce que c'est oui, le public à la télévision, mais il y a aussi les spectateurs dans le stade avec qui tu dois échanger. Alors, la première question, je suis allé sur le plaisir de retrouver la foule. Puis elle dit, écoute, je me suis jamais senti supporté comme ça, puis ça fait du bien de vous retrouver après un an et demi. Mais la vraie question que j'ai posée, puis c'était la troisième, puis c'est pour ça que je l'ai gardée pour la fin. Tu sais, j'ai dit, t'as à peu près pas joué là dans la dernière année et demie, là, tu sais. À quel point tu te rapproches de là où tu veux être? Puis normalement, dans ce genre d'entrevue-là, tu poses pas des vraies questions de tennis, tu fais ça pour la foule, puis tu fais ça pour le fun, puis tu sais, on célèbre la victoire, mais mais je le sais qu'elle n'est pas là où elle voulait être. Elle n'est pas là où elle veut être. Puis elle m'a fait comme une espèce d'expression faciale qui voulait dire, là, tu me poses une vraie question. Je suis pas sûr que devant 4000, j'ai le goût de me lancer dans la fine analyse, mais mon jeu n'est pas ce qu'il était il y a 2 ans quand j'ai gagné l'US Open. C'est à peu près ça que ça voulait dire.
Non, mais en même temps, en conférence de presse, par contre, par la suite, elle a quand même mentionné que son niveau de jeu montait, qu'elle était confiante qu'elle allait pouvoir continuer à augmenter ce niveau de jeu-là. Et les gars, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais peut-être que le fait qu'elle a joué 3-7 hier, c'est pas une mauvaise chose. Parce qu'elle a pas joué beaucoup de matchs compétitifs dans les derniers mois. Alors, le fait d'ajouter un 7 en situation de match, ce serait peut-être pas une mauvaise chose dans les circonstances. La fatigue ne devrait pas être un enjeu puisqu'elle a pas joué beaucoup. T'en penses quoi, toi, Jean-Philippe, de ça? Est-ce que c'est une bonne chose pour elle, tu penses, un troisième set malgré tout?
Au stade où on se parle, là, écoute, je pense que son dernier match revenait au mois de mars, là, ça y prend du volume. Alors, moi, je suis d'accord avec toi. Là, plus elle frappe de balle, plus elle retrouve ses sensations, plus elle joue des matchs, plus elle se sent impliquée, plus vite elle va retrouver son niveau d'excellence auquel on a eu droit il y a 2 ans. Mais il y a une chose que tu peux pas recréer à l'entraînement, puis c'est des situations de match. Puis c'est le niveau d'énergie que tu dois déployer pendant un match. T'as beau te pratiquer, t'as beau t'entraîner fort. En d'autres mots, là, personnellement, j'écoutais les commentaires de Marie-Ève Pelletier également pendant le reportage qu'on présentait à TVA Sport. En bon québécois, là, en bon français, je pense pas qu'elle est encore dans son état game shape. Alors, je te rejoins là-dessus. Plus elle joue, plus il y a du volume, plus elle va s'en rapprocher.
Une bonne chose. Je suis 100% d'accord avec toi. Jean-Philippe, peut-être nous parler un peu de rapidement ce qui nous attend à TVA Sport aujourd'hui. J'imagine que vous allez surveiller, entre autres, Rebecca Marino.
Oui, ben écoute, c'est le premier match qu'on présente sous le coup de 11h. Puis honnêtement, là, son premier match face à Madison Keys, elle a été vraiment très, très, très impressionnante. Et son parcours, là, puis je suis convaincu qu'au podcast, vous en avez parlé en masse, là, mais son histoire est tellement fascinante. Là, tu sais, quitte le tennis, victime d'intimidation, victime de dépression, se lance complètement dans un autre sport. Finalement, son père malade la convainc pratiquement de revenir à ses premiers amours. Puis quand j'y ai parlé après le match, tu sais, j'ai dit à quel point t'aimes le tennis là, à l'heure où on se parle. Puis tu sais, c'est une fille qui a retrouvé le goût de jouer et qui joue pas pour la pression, qui joue pas pour les millions visiblement, mais qui joue pour le simple plaisir. Là. Elle est revenue aux sources. Puis moi, je pense qu'une joueuse dans un état mental de la sorte, tu sais, que écoute, tu peux faire des dommages. Alors, j'ose croire qu'elle va bien faire aujourd'hui. Là, j'espère juste que la météo va collaborer parce que on a eu des petits problèmes hier lors du match de Zarenka, mais sinon, je m'attends à une autre belle performance de la Canadienne qui parle d'ailleurs très bien français.
Puis on va garder du coin de l'œil le match 11 Jabeur-Kazatkina puisqu'il sera le prochain affrontement de Bianca Andreescu. Jean-Philippe, je te laisse aller, je ne prends pas plus de ton temps. Tu as été super fin de nous mettre entre deux réunions et de venir nous jaser. Je l'apprécie énormément. Et puis bon tennis, mon gars, profite-en. Puis je suis bien ben fier de ton travail. Puis tu fais un très bon travail, mon gars, lâche pas.
Bien, c'est toujours un plaisir de collaborer avec des amis. Là. Vous êtes tous des anciens collègues ou des amis. Puis je sais que vous faites une belle job, je vous suis. Fait que lâchez pas. Bonne semaine, bonne. Je vais dire Coupe Rogers. Faut plus j'ai ça. Bon aluminium Banque Nationale, les boys.
Merci beaucoup.
Bye, merci, JP.
Bye.
Alors, très intéressant, messieurs, de pouvoir avoir eu Jean-Philippe qui était sur le terrain. Peut-être pour continuer dans cette optique-là, toi, Hugues, tu étais là, donne-nous ton input.
Ben, premièrement, je vais dire que Jean-Philippe Bertrand suit dans la voie de grands commentateurs on court. Les Jim Courier, Brad Gilbert, c'est un boulot important quand même d'interviewer les joueurs, joueuses après une victoire. Après une défaite, généralement, on les voit pas, on leur parle pas sur le terrain, mais Jean-Philippe fait un très, très bon boulot. C'est bon de le voir là, c'est la bonne personnalité pour ça. C'est un gars qui a de l'émotion, comme tu disais, Alex, qui est sympathique. Donc, il joue très bien ce rôle-là de on-court animateur après les matchs. C'était vraiment une soirée spéciale. Je vous écrivais durant le match hier en direct. C'était un classique Bianca en deux temps. Comme souvent, on la voit à un moment d'un match où on pense qu'elle n'est plus capable. Ses pieds ont l'air de peser une tonne. Elle a l'air fatiguée. Le deuxième set, là, j'ai dit OK, ça s'annonce mal à la fin du deuxième, au début du troisième même. Puis elle a réussi, comme elle le fait tellement souvent, à renverser la vapeur. Et c'est là que je vous ai écrit, c'est un classique Bianca. On a vu ce rythme de match souvent dans son cas. Mais pour revenir sur son match readiness, est-ce qu'elle a joué assez de matchs? C'est clair que non. Harriet Dart avait un jeu qui était plus placé, ça c'était évident hier durant la plupart des échanges. Sauf que quand Bianca jouait son jeu, c'est-à-dire un jeu de puissance, un jeu d'attaque, on voyait qu'elle était au-dessus. Le problème, c'est qu'elle mixait un peu trop. Elle sortait des slices un peu bizarres en coup droit, en revers, qui étaient durs à comprendre. Il y avait sûrement une intention tactique derrière, mais c'est pas la majorité des points qu'elle a gagné en frappant comme ça. Mais je pense que plus le tournoi va avancer, ça peut continuer un autre tour, elle va gagner en puissance et elle peut quand même aller loin, je pense, dans le tableau.
Nico, tu as vu ça comment, toi, ce match-là, en dépit de ta grave migraine hier soir?
Ben, ce que j'ai aimé, puis tu en as parlé brièvement avec JP, c'est qu'on a pu l'avoir joué pendant 3 sets. Et ça, je pense que pour un retour, c'était souhaité. Après, je trouve qu'on a vu dans un même match le meilleur et le pire de Bianca, c'est-à-dire de très bons services, comme Hugues l'a dit, des choix tactiques intéressants, des bons coups placés. Elle a quand même réussi à suivre le rythme. Mais dans un autre temps, on a vu aussi le pire. Une Bianca qui s'entêtait à faire des trucs qui ne fonctionnaient pas. Une Bianca qui était souvent enragée après elle-même. Puis c'est correct, on demande ça du caractère. Mais Bianca, parfois, un peu comme Dennis, ça peut lui jouer des tours. Donc, j'ai aimé qu'on voit vraiment tout ce que Bianca est capable d'offrir en un seul match. Après, un autre point que j'aimerais apporter, puis on n'en a pas beaucoup parlé parce qu'elle jouait contre deux Canadiennes, mais Harriet Dart, quelle belle découverte. Cette jeune joueuse de 25 ans, on ne peut pas dire que c'est un espoir, là. Et puis je mentirais si je disais que je la connaissais vraiment avant le début de l'Omnium, mais quelle belle joueuse de tennis, une variété de coups vraiment intéressante, beaucoup de caractère, une fille qui a joué en dépit de la blessure. Je lève mon chapeau à la Britannique parce qu'elle a vraiment fait belle figure à l'Omnium cette année.
Messieurs, avant qu'on aille un petit peu plus loin sur le match, je vous propose d'écouter les états d'âme de Bianca Andreescu hier après son match en conférence de presse rapidement.
I felt really, really good throughout the whole match, just knowing that I'm playing at home, I have the crowd support, that always helped in key moments, and I think I started off the match really, really well, and then there was a moment where I tried something different for like 2-3 points, and that just, I think that was the key moment where it switched momentums, and she started playing well. I think it was the 1-1 game in the second set. And yeah, she picked up her level and I thought I was still playing well at that point, but I think it was more mental towards the end. And I'm just super happy that I was able to, you know, go from here and, you know, come more closer to the baseline and finishing off points at the net.
Messieurs, vous connaissez votre tennis parce que elle vient de dire en conférence de presse principalement qu'est-ce que vous disiez précédemment, c'est-à-dire, bon, j'ai essayé des choses, ça n'a pas marché comme je le voulais, et là, à partir de ce moment-là, c'est comme si le momentum avait changé. Et elle a dit, je suis juste contente que j'ai pu retrouver mon niveau de jeu à temps. Et ça, parenthèse, c'est la marque des grands champions, par ailleurs. D'être capable de sortir du trouble quand tu sais que t'es pas à ton max, c'est la marque de grand champion, ça c'est assuré.
Et, exactement.
Et elle a dit, vers la fin, c'était beaucoup plus mental. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que, bon, si le mental est bon et qu'elle réussit à gagner des matchs alors qu'elle sait que son niveau de jeu n'est pas là où elle peut ou veut être, c'est que des bonnes nouvelles dans le contexte pour ce qui est à venir. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça.
Oui, puis sa force mentale et sa force de jeu, j'ai envie de dire, hier, se sont très bien mariés. Je prends un exemple, je pense que c'est au deuxième set. Deux ou trois coups consécutifs, elle a tenté de faire un amorti du coup droit en slice. Ça ne fonctionnait pas. J'ai l'impression que la Bianca d'il y a deux ou trois ans aurait continué, se serait entêtée à faire cette slice-là jusqu'à temps que ça fonctionne. La Bianca d'hier s'est dit « ça ne fonctionne pas, je dois changer de stratégie ». Et tu le dis, c'est la marque des grands champions de s'adapter en cours de match, de s'adapter en cours de route. Et Bianca, si elle peut, illico, sur le champ, lorsqu'elle voit qu'il y a un de ses coups, une de ses frappes qui ne fonctionne pas, s'ajuster, ça va vraiment l'amener au niveau supérieur, même si elle est déjà parmi l'élite mondiale. Mais je pense que cette maturité-là dans son jeu et dans sa prise de décision va l'aider énormément, surtout dans un contexte où elle ne joue pas beaucoup. Elle ne doit pas gaspiller de points. On l'a vu hier quand même, là, beaucoup, beaucoup de fautes directes. J'ai pas le chiffre exact sur moi, mais cette adaptation-là en cours de match m'a beaucoup plu.
Hugues, toi, tu étais sur place. Tu as peut-être vu des choses que nous, on n'a pas vues à la télé. Est-ce que son langage corporel, je veux dire ça comme ça, est quand même relativement encourageant?
Il était, comme je disais un peu plus tôt, fidèle à elle-même. Il y a des moments où elle était conquérante, dominante, elle était surpuissante pour son adversaire. Elle a, comme on dit, blitzé la fin du premier set là, pour finir 6-1. Mais on l'a vu un petit peu douter durant le deuxième, début du troisième. Puis elle a dû se nourrir d'énergie de la foule. On l'a senti à un moment donné dans le troisième. Puis la foule était vraiment là. La foule des beaux soirs à Montréal, je disais ça à mon épouse durant le match, là, il faut que les gens s'en mêlent un peu. Et c'est ça qui s'est passé. Elle s'est nourrie de ça, je pense. Et là, elle est revenue à son meilleur. Mais évidemment, son manque de match paraît. Donc, il y a un petit doute encore. Ce qui fait que son jeu est pas tout à fait placé. Mais elle est pas très loin, selon ce que j'ai vu hier, en fait. Là. Elle est peut-être à 70-80% de son jeu. Puis je pense que si elle analyse bien ce qui s'est passé avec son coach, c'est évident qu'ils vont le faire. Ils vont apporter des correctifs. Et je pense que ces correctifs-là ne sont pas énormes. Je pense qu'elle va pouvoir monter encore. Donc, il y avait des petits moments de doute hier, mais je pense qu'ils ont été bien, bien effacés à la fin du match.
Hier, j'ai écouté le tennis à TVA Sports. Je l'ai écouté en français. Et j'en profite pour souligner l'excellent travail de Félix et Marie-Ève Pelletier. Marie-Ève Pelletier, elle est excellente. Et c'est drôle parce que eux, après, au début du deuxième set, ils ont dit... c'est pas aussi facile que ça en a l'air. Le score indique pas que le 6-1 du premier set indiquait pas que le premier set avait nécessairement été facile. Et c'est tout à fait vrai. Moi, je suis passé par toute la gamme des émotions dans ce match-là, honnêtement. Là, à un certain bout, je me suis dit finalement, ça va peut-être être après le premier set. OK, ça a été un peu compliqué, mais elle va l'emporter en 2-7 sans trop compliquer. Et puis là, à la fin du deuxième set, je me suis dit oh là, peut-être que le tournoi de Bianca va être court. Et puis finalement, elle a réussi à remonter la pente. On est très content de cette performance. Là, on ne se cachera pas, on est chauvin, on ne fera pas semblant qu'on ne veut pas que Bianca gagne. On pourra revenir sur les matchs à venir prochainement, messieurs, mais chose certaine, c'est quand même de façon générale encourageant pour Bianca, ça c'est sûr. Il y avait une autre Canadienne en action, Carole Jao, du côté des femmes. On se disait hier, Nico, en avant-match, que peut-être... elle avait des chances contre Soribas Tormo parce qu'elle la connaissait. Isabelle Junot nous disait, si elle joue son jeu, elle va pouvoir peut-être l'emporter. Et finalement, Soribas Tormo, visiblement, est dans une ligue à part pour l'instant.
Ouais, et puis, il faut aussi le souligner, Isabelle qui nous disait aussi, il ne faut pas l'oublier quand même, que le simple fait de jouer ce premier tour-là est un cadeau pour Carole. Et je pense qu'elle en a profiteur, du moins j'espère, parce qu'il faut jouer du tennis. Pour atteindre ce niveau-là de compétitivité, de talent, il faut jouer le plus possible et de jouer contre une fille comme Soribas Tormo qui connaît toute une année sur le circuit. Évidemment que ce n'est pas le résultat souhaité, mais je pense que l'expérience qu'elle a acquise au cours de ce match-là, c'est pas perdu, évidemment.
Oui.
En effet.
Je voulais faire un point sur Sorribel Stormo. N'oubliez pas qu'on l'a vu en début d'année là, contre Eugénie, contre Leila. C'est une pitbull. C'est une joueuse qui retourne tout. Extrêmement constante. Elle est teigneuse, comme on dit en France. Donc, c'était une grosse cliente pour Carole aussi. Là. Donc, bon match en termes de prise d'expérience pour Carole.
Non, exact. Et puis, c'est un tournoi qu'elle connaît bien, qu'elle a joué beaucoup. Moi, je lui ai parlé après la rencontre. Elle disait qu'elle était quand même satisfaite de son expérience, même si c'était, comment dire, une expérience un peu bizarre dans le contexte, là, étant donné que le COVID et tout. Messieurs, on va continuer de suivre Bianca et Rebecca. C'est terminé pour Carole. Je veux qu'on fasse un petit aparté sur ce qui s'est passé avec Taylor Fritz. Nico, est-ce que je te lance en dessous de l'autobus si je te demande de nous raconter ce qui s'est passé?
Non, ben en fait, c'est juste que Taylor Fritz, pour des ennuis de santé, a dû se retirer du tournoi. Et il y a des gens sur la toile, sur Twitter notamment, qui l'ont insulté, qui l'ont intimidé. En fait, ce sont beaucoup des parieurs en ligne qui ont dit « J'avais misé sur toi, tu nous as laissé tomber, t'as pas fait ton boulot. » Évidemment, Taylor Fritz leur a répondu en voulant dire « Je vais pas jouer en fonction de vos paris. Si vous voulez parier sur moi, parfait, mais moi, j'ai pas de contrôle là-dessus. » Donc, c'est un peu fait incendie sur la toile, le bon Taylor Fritz. Malheureusement, évidemment, c'est pas le genre d'attitude qu'on souhaite, surtout dans une ère où, avec les Naomi Osaka, on parle beaucoup de la pression, de la santé mentale, de cette espèce d'entonnoir que peuvent créer parfois les partisans. Et là, c'est les parieurs qui s'acharnent sur Taylor Fritz. Ouais. C'est dommage, mais je pense que Fritz a bien fait de répondre et d'aller de l'avant et de dire « Écoutez, je vais penser à ma santé en premier. Vous penserez à vos paris peut-être après. Là, l'important, c'est que je prenne soin de moi. Puis le reste, ça vous concerne pas, tu sais. »
Bon, deux choses, Nico. Première des choses, merci de nous offrir une ambiance d'oiseau dans ce podcast.
Ambiancé, petit café du matin,
ben oui.
Chant de l'oiseau.
Merci de nous offrir ça. Je veux dire, c'est sûrement unique au monde. Pour vrai, c'est sûr que ça. Et parlant de unique au monde, je peux te dire, on fait bien. On est numéro un dans les tennis, dans les podcasts de tennis à Hong Kong, semble-t-il, selon les chiffres de Hugues Léger. Je le mentionne.
Et deuxième. C'est ceux de Chartable et Apple Podcast. Je tiens
à le dire. Et deuxième au Canada, semble-t-il, cette semaine. Alors, j'en profite pour nous faire une petite tape dans le dos, messieurs. Et pour en revenir au sujet plus sérieux, je vais y aller d'une opinion. Ça me dépasse, qu'est-ce qui se passe. Tu sais, je veux dire, à quel point tu manques de gros bon sens pour aller intimider un athlète qui ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe parce que, bon, il a eu un malaise cardiaque, mais il ne sait pas à ce moment-là, il ne sait pas. Il décide de jouer le match jusqu'au bout pour vivre l'expérience jusqu'au bout et, bon, offrir un spectacle jusqu'au bout. Et puis, il se fait ramasser par des parieurs, insulter, menacer. Je veux dire, après ça, quand tu vois des situations comme ça, tu comprends que Naomi Osaka et Simone Biles disent là, c'est assez. Hugues, tu veux ajouter sur le sujet?
Oui, ben là, je vais amener encore l'aspect commercial de la question. On voit l'effet pervers de la normalisation des paris en ligne en ce moment. La plus grosse entrée d'argent dans le sport en ce moment au niveau des commandites, vous le voyez par les pubs, les commandites dans tous les sports. D'ailleurs, Messi avec le PSG. Le PSG vient de signer un gros commanditaire américain qui s'appelle Play Bet Better. Donc, Bet Better. Donc, une grosse somme d'argent qui rentre au PSG tout de suite avec Messi. Mais tout ça pour dire que la normalisation des paris sportifs rend la relation entre les parieurs et les événements plus intime, plus acceptable de parler. Donc, ce qui fait que ça crée des situations extrêmement perverses comme celle-là. Et c'est très grave. Très, très, très grave, là, que ça devient normal. Hey, mon gars, j'ai mis de l'argent sur toi. C'est légalisé dans plein d'États américains. Ça va être légalisé en Ontario aussi. Donc, les paris live dans les matchs sont déjà au Canada aussi. Donc, je pense qu'on voit déjà l'effet pervers de cette normalisation des paris sportifs.
Mais en même temps, tu sais, je veux dire, ça va au-delà de ça. Je pense que toute la normalisation, je pense, tu sais, je veux dire, t'as beau avoir la bombe nucléaire, t'es pas obligé de la faire exploser, ouais.
Alex, il y a des nonos partout. Ils ont une plateforme, ils ont l'accès au grand public et ils vont. Donc, c'est l'effet pervers aussi des réseaux sociaux avec lesquels on doit composer. Et Taylor Fritz a très bien répondu en passant.
Ben, tu sais, ce qui est fascinant, c'est que j'imagine
100% raison.
C'est que ces parieurs-là, pour s'acharner sur Fritz, ont pas dû gager $1 ou $2. Ça doit être des grosses sommes. Ouais. Ultimement, je me demande, pourquoi tu gages tant que ça sur un Taylor Fritz? Rien contre l'athlète, rien vraiment contre Taylor Fritz.
C'est les odds,
C'est parce que je me dis, OK, à la limite, tu mets un bon pactole sur un Federer, sur un Nadal, sur un Djokovic. Mais
parce que ton inexpérience dans le pari sportif te trahit, Nico, parce que
si tu paries
sur un Federer ou un Djokovic, tu n'auras jamais des bons odds.
Oui, je comprends, mais dans le sens de... je trouve ça bizarre de s'acharner sur un Taylor Fritz qui n'a pas fait tant que ça sa marque, d'avoir mis autant d'argent ou de trucs sur un... Oui, je sais qu'il pourrait apporter gros, mais ça m'étonne quand même qu'il y ait des gens qui s'acharnent sur un Taylor Fritz, tu sais.
Ben en fait, ça, il faut s'en étonner. Et Hugues a été très poli en disant des nonos parce que, je veux dire, si tu as parié sur un... En fait, je vais juste expliquer la situation. La raison pour laquelle il a reçu des menaces et de l'intimidation, c'est que il n'a pas abandonné le match. Et s'il avait abandonné le match, les paris auraient été annulés.
Ouais.
Et là, lui, il a continué en dépit du fait qu'il ne se sentait pas bien. Et... là, les gens, les parieurs, une partie des parieurs qui n'ont aucun bon sens, là, sont mis à l'insulter pour dire « t'aurais dû annuler, j'ai perdu de l'argent à cause de ça ». Mais sans joke, là, si tu es assez tata pour aller mettre ton hypothèque sur un match de tennis, vis avec les conséquences. En tout cas, c'est l'éditorial, je sais pas. Là. Je voulais qu'on revienne parce que c'est tellement thématique en fonction de la santé mentale des athlètes. On en parlait. Puis je suis fasciné par ce sujet-là. Nono, tata, je veux dire, c'est ça. Je voulais qu'on en parle. Je me range du côté de Taylor Fritz qui leur a répondu en disant « Je me fous de votre dépendance au jeu ». Messieurs, je me dépêche d'aller au match à venir parce que Hugues devra nous quitter un peu plus tôt aujourd'hui. J'invite à entrer dans la conversation Louis-Philippe Trozzo qui travaille avec nous. Allô Louis-Philippe.
Salut les gars.
Louis-Philippe, qui est un chef de pupitre à Radio-Canada, mais il travaille un peu dans les coulisses avec nous. Il aime nous donner son input. C'est un gars très intelligent qui a déjà une bonne expérience des médias. Et c'est aussi le gars de confiance de Hugues Léger. Alors, il avait tout pour se joindre à nous cette semaine pendant l'Omnium Banque Nationale. Merci, Louis-Philippe, de te joindre à nous.
Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir aussi de vous écouter au quotidien. Là. Vos épisodes sont toujours super intéressants, toujours très pertinents. Là. Beaucoup de plaisir à vous.
Tu nous parles comme ça quand tu veux, Louis-Philippe. Moi, j'ai bien hâte que tu fasses cette chronique-là parce que si on t'a invité, c'est pour que tu nous fasses un petit historique des commanditaires et un petit historique du tournoi, Louis-Philippe. Et quoi de mieux qu'une édition où on change de commanditaire pour en parler? Alors, tu nous proposes un petit retour dans le temps avec l'historique des noms et des commanditaires de l'Omnium Banque Nationale.
Oui, c'est ça. Mais en fait, tu l'as dit, c'était mon amorce. Les gars, vous le savez, les internationaux de tennis Canada ont changé de nom cette année. Le tournoi s'appelle l'Omnium Banque Nationale, je vous apprends rien. Mais comme moi, je suis sûr que vous vous méprenez encore à l'appeler la Coupe Rogers. On va finir par s'y habituer, comme les partisans de tennis du Québec et du Canada sont habitués au dernier changement de nom. Parce que c'est ça, il y en a eu plusieurs. Et ce n'est pas tout le monde qui sait que le tournoi n'existerait fort probablement pas si ce n'était de la contribution et du soutien d'un fabricant de cigarettes. Oui, un cigarettier, aussi surprenant que ça puisse paraître aujourd'hui, mais il faut aussi se dire que c'était à une autre époque. Donc voilà, aujourd'hui, je vous propose un petit retour dans le temps.
Et justement, tu parlais des cigarettiers, il y a eu Players, les internationaux matinée. Aujourd'hui, ça fait sourciller d'une certaine manière. Là, est-ce que tu vas aller plus loin sur ce sujet-là?
Oui, c'est ça. Ben, en fait, je vais aller un petit peu, je reviens un petit peu avant. Là, c'est ça. Il faut savoir que les internationaux de tennis du Canada, c'est vraiment l'un des plus vieux tournois au monde. La première édition chez les hommes a eu lieu, imaginez, il y a 140 ans. En 1881, Et 11 ans plus tard, chez les femmes, en 1892, du côté féminin, là, c'est même le troisième plus vieux tournoi majeur après Wimbledon, le US Open, c'est quand même pas rien. Donc, troisième plus vieux, mais c'est ça, il y a pas toujours eu, ça, le tournoi n'a pas toujours eu la renommée internationale qu'il a aujourd'hui. Il va falloir attendre 100 ans après sa création, jusqu'en 1980, pour qu'il acquiert une dimension mondiale. Parce qu'avant 1980, c'est ça, le tournoi était présenté dans des clubs privés de Toronto, de Montréal, de Vancouver, de Québec, Niagara Falls, avant d'être principalement disputé en Toronto. Mais en 1980, c'est ça, il va avoir un événement qui va changer à jamais le visage du tournoi et va lui donner l'impulsion nécessaire vraiment, là, les gars, pour qu'il soit parmi les plus grands tournois au monde. Et c'est ce que j'ai dit, j'ai nommé l'argent du tabac. Parce que avant 1980, la loi fédérale, elle interdisait, puis d'ailleurs, elle interdit toujours, là, la publicité de cigarettes dans les médias, puis elle ne prévoyait rien en ce qui a trait aux bâtiments et aux événements. Puis c'est comme ça qu'il est entré dans le portrait Imperial Tobacco, le chef de file de l'industrie au pays à l'époque. Et donc, en 1980, le cigarettier, il achète les droits des commandites du tournoi, et l'avenir du tennis canadien là, se joue littéralement dans les bureaux du patron de l'entreprise, Paul Paré. Parce que avant de conclure la transaction, M. Paris va poser une condition qui va être déterminante pour la suite des choses. Le tournoi doit avoir lieu au Québec. Et c'est d'ailleurs de là que nous vient l'alternance des tournois masculins et féminins entre Toronto et Montréal. Montréal d'ailleurs qui était puis qui est toujours hein, le siège social d'Imperial Tobacco. Alors voilà, au départ, le tournoi est nommé Omnium Dumouriez. Après les cigarettes Dumouriez, qui était vraiment la marque la plus vendue là, au Canada à l'époque, avec environ 30 % du marché. Et là, comme tu viens de le dire, c'est ça. Donc, selon les besoins marketing du fabricant, le tournoi s'est aussi appelé International Players, Challenge Players, Internationaux Matinées. Et ça fait sourciller, parce que vous en conviendrez, là, surtout avec le contexte et la réalité d'aujourd'hui. C'est étonnant qu'un cigarettier devienne le commanditaire principal du tournoi. D'une part, du fait qu'il associe au tabac un sport de haut niveau et l'activité physique, sans trop se soucier, semble-t-il, là, de l'impact que ça peut avoir sur la santé publique. En même temps, il faut se remettre en contexte. Le Québec des années 90 est pas mal emboucané. Je vous donne une statistique. En 1994, 35 % des 15 ans et plus fumaient, selon Statistique Canada. Puis dans la vingtaine, c'est presque un adulte sur deux. Le problème, c'est que c'était difficile pour Tennis Canada d'envisager de séparer d'Imperial Tobacco parce que le tournoi était très dépendant financièrement. L'exemple le plus concret, là, c'est que jusqu'en 1995, vous savez, encore une fois, je vous apprends rien, le tournoi, il était présenté au Stade Jarry, au premier domicile des Expos. Mais en 1996, là, la nécessité là, de se doter d'une installation d'envergure se fait de plus en plus grande et pour que le tournoi se maintienne parmi l'élite, là. Donc, le cigarettier va aider Tennis Canada à inaugurer un nouvel amphithéâtre, le Stade Dumouriez, qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Stade IGA. Et c'est vraiment un investissement qui va être un point tournant là, dans l'histoire du tournoi et qui va lui permettre de monter d'un cran en termes de capacité, de visibilité et par conséquent de revenus publicitaires. Là, pour vous donner un ordre de grandeur, là, de 8000 spectateurs sur l'ensemble de la semaine en 1980, le tournoi est passé à plus de 220 000 spectateurs en 2019, l'édition juste avant la pandémie. Et là, tu voulais ajouter quelque chose?
Ouais, ben j'allais ajouter à ta statistique. D'ailleurs, chez les femmes, je pense que c'est le tournoi le plus achalandé au monde sur les tournois d'une semaine, d'ailleurs.
Oui.
À Montréal.
C'est juste. Il faut dire qu'Imperial Tobacco, là, il ménage pas du tout les points de promotion. Hein. Littéralement, à l'époque, là, littéralement, tout est flanqué des logos et des couleurs du cigarettier. Par exemple, les costumes des centaines de bénévoles portent les noms et les couleurs des paquets. Bleu et blanc pour Players, jaune et brun pour Matinée, rouge et noir pour Dumouriez. Même les jeunes chasseurs de balles, des mineurs, portent les noms et les couleurs des marques de cigarettes. Et ça s'étend jusqu'au au décor et aux activations du site. Puis les gars, puis je pense que Hugues, il pourra en parler, ça rapporte, parce qu'en réalité, dans le grand public, il y a très peu de gens qui pourraient nommer le ou la gagnante de telle ou telle édition, mais presque tous auront retenu le nom du stade Dumouriez.
Oui, ben écoute, je suis tellement content que tu abordes ce sujet-là parce que c'est une histoire qui est connu des gens de mon âge, un peu moins des plus jeunes aujourd'hui, mais effectivement, la contribution d'Imperial Tobacco au tennis canadien est une valeur énorme. J'ai été employé d'Imperial Tobacco, j'étais directeur marketing de Dumouriez, je connais bien l'histoire de la relation entre Imperial et le tournoi. Il y avait un gestionnaire attitré à temps plein chez Imperial Tobacco à la gestion du tournoi. Il faut se rappeler, par contre, que dans les années 70-80, on vivait dans un autre monde aussi, là. Les commandites de cigarettes dans tous les secteurs d'activité, que ce soit au niveau culturel avec le festival de jazz, par exemple, qui était commandité par Dumouriez aussi. La Formule 1 avec Marlboro pendant des années, Lucky Strike.
Les feux d'artifice.
Les feux d'artifice, Benson & Hedges, exactement. Donc, c'était une autre époque. Et il faut pas oublier aussi, bon, de nos yeux de 2021, on voit la cigarette très différemment. Je parlais de normalisation du pari sportif plutôt. On a assisté plutôt à une normalisation du tabac depuis des décennies, et ce qui est tout à fait légitime, je dirais. Mais à cette époque-là, c'était un monde différent. Et Dumouriez, Players, Matinée, les budgets marketing de ces marques-là au niveau des commandites ont fait qu'on a le tournoi qu'on aime tant aujourd'hui, qu'il existe aujourd'hui. Donc, leur contribution est quand même majeure. Et si vous parlez à Eugène Lapierre, à Richard Legendre, qu'on va inviter cette semaine, ils auront des choses à dire sur le sujet aussi. Donc, ces commanditaires-là ont été déterminants pour la réussite du tournoi au fil des années. Et je pense qu'on n'a pas à être honteux de ce qui s'est passé durant ces années-là. C'était une autre époque, tout simplement. Et on faisait référence, justement, aux internationaux players. Je m'en vais aux players, imagine. On disait même plus le nom du tournoi. On disait, je m'en vais aux players, au Dumouriez ou à l'Omnium Dumouriez. Et voilà, le tournoi s'est bâti comme ça. Et on a un très beau stade de calibre mondial maintenant aussi, grâce à la contribution des cigarettiers. Mais on vit dans un autre monde aujourd'hui, c'est évident.
Mais je me souviens, c'est pas la première fois qu'on parle de ça, et Nico avait apporté un bon point il y a quelques semaines ou peut-être quelques mois quand on avait abordé le sujet. Peut-être que les boissons énergisantes, te souviens-tu, Nico, c'est toi qui avais dit ça, Red Bull, etc., seront les prochains à tomber au niveau des commanditaires. Et ils sont partout, là. Quand tu regardes Red Bull, par exemple, ils sont partout dans le monde du sport, particulièrement en termes de commandites. Alors, ils seront peut-être que dans 20 ans, on aurait exactement la même chronique, mais au lieu de Dumouriez, Benson & Hedges et Players, on va parler de Red Bull, Monster, etc. Et LP pourrait faire exactement la même chronique puis changer les noms. Bon, et pour en revenir à LP et son historique, bon, évidemment, là, aujourd'hui, on sait, ça semble d'une évidence, comme tu disais, on a laissé tomber les cigarettiers, il a fallu passer à autre chose, LP.
C'est ça, c'est finalement l'année 2003 qui va avoir raison du partenariat, là. Cette année-là, Québec interdit toute commandite par des marques de cigarettes, et là, ça force le tournoi à se trouver un nouveau commanditaire. Et Rogers devient alors le commanditaire principal, et le stade Dumouriez est désigné stade Uniprix, avec la pharmacie qui entre également là, dans le bal publicitaire en 2004. Il faut savoir que ces nouveaux partenariats là, avec Rogers et Uniprix viennent avec d'importantes rénovations. Dès 2007, des investissements majeurs au stade vont lui permettre de devenir le premier centre national d'entraînement de l'histoire du tennis canadien. Et 3 ans plus tard, devant l'essor là, du tennis au Canada, puis les résultats sans précédent là, de nos joueurs canadiens, le stade Uniprix est agrandi, mais cette fois en hauteur. Donc, ce sont les quatre nouveaux terrains de terre battue qui s'ajoute aux 24 terrains de surface dure du site. Et tout ça, là, maintenant, nous amène, c'est ça, donc à février de cette année, Rogers et Banque Nationale, là, les deux grands partenaires du tournoi, vont inverser leur rôle. Banque Nationale devient donc le commanditaire en titre et Rogers le commanditaire présentateur. Une entente, là, c'est ça, pour des technicalités, mais de 10 ans avec Banque Nationale et de 7 ans avec Rogers. Et c'est un changement vraiment qui tombe à point pour Tennis Canada, puisque la Banque nationale va permettre à la Fédération de se relever de la pandémie, parce qu'il ne faut pas oublier que ces programmes et tournois ont été à l'arrêt pendant plus d'un an. Donc, comme je vous dis, c'est bien accueilli là, par Tennis Canada. Donc, voilà pour la petite histoire des commandites des internationaux de tennis du Canada. Et comme je le disais en ouverture, c'est drôle à dire, mais c'est un cigarettier qui a mis la table pour la génération dorée qu'on va performer aujourd'hui, à savoir Félix Auger-Aliassime, Denis Shapovalov, Leila Fernandez, Bianca Andreescu et compagnie.
Et je, peux rajouter, je peux rajouter un petit truc, excuse-moi Alex, et dans les sondages d'évaluation des joueurs et des joueuses, année après année, durant les années de commandite d'Imperial Tobacco, c'était le tournoi préféré des joueurs et des joueuses hors Grand Chelem sur le circuit ATP WTA parce que les joueurs étaient tellement bien reçus, il y avait des moyens derrière, donc les joueurs appréciaient leur passage à Montréal.
Avant que je vous laisse aller tous les deux, LP et Hugues, Hugues, à quel point c'est déterminant pour une image de marque, une commandite de ce genre-là? Parce qu'on paye des gros montants dans le monde du sport et ça doit rapporter parce qu'on paye des gros montants.
Oui, on en a souvent parlé. Si le mariage fait du sens au niveau des valeurs des marques, donc de l'événement commandité et de la marque, ça peut être génial. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est déterminant, c'est la constance. Il faut être là longtemps. Tu fais pas un in and out sur une commandite. Là. Regardez Banque Nationale et Rogers, ils inversent, mais c'est les deux marques qu'on voit depuis plusieurs années. Dumouriez avec le tennis, avec le jazz, les gens les nomment encore aujourd'hui parce qu'ils ont été là année après année. La Batte Bleue pour le Festival Juste pour rire, qui n'est plus commanditaire de Juste pour rire. On parle encore de la Batte Bleue pour Festival Juste pour rire parce qu'il y avait une constance. Donc oui, c'est pour une marque, si le choix de l'événement est bon, ça peut être très, très rentable en termes d'appréciation de la marque et d'adhésion à une marque par les consommateurs.
Mais d'ailleurs, là, on est habitué, mais nous, ça nous a pris quand même un petit moment là, pour que se mette Omnium Banque Nationale dans la bouche et que ça devienne un réflexe et que ça sorte. Alors, c'est la preuve, LP, que ça fonctionne, ce genre de commandite-là. Excellent travail, LP. Je suis très content. On va publier ta chronique à part sur notre version audio et sur nos médias sociaux. T'es super d'avoir préparé ça. C'était excellent. Je rappelle que t'es éditeur en chef aussi de Victoire Média, d'ailleurs, qui produit en partie le podcast et qui est la compagnie de Hugues. LP, garde, avant qu'on te laisse aller, veux-tu faire une petite plug pour Victoire? Qu'est-ce que c'est, Victoire? Je le demande à Hugues d'habitude, je le demande à toi aujourd'hui.
Ben, en gros, c'est parti. C'est un projet qui était consacré au soccer au départ parce que on voyait venir la fenêtre de 2026, la Coupe du Monde qui se disputera donc au Canada, mais aussi aux États-Unis puis au Mexique. Et on est tous des grands fans, voilà, de soccer. Puis il y a une effervescence dans l'air en ce moment entourant l'équipe. J'allais dire masculine, mais maintenant beaucoup féminine avec cette médaille d'or là que nos Canadiennes ont ramené au pays. Et du même coup, on a vu, c'est ça, avec ces pépites qu'on a du côté du tennis canadien. Je les ai nommées tout à l'heure. On s'est dit, il y a quelque chose à faire au tennis. Donc là, maintenant, Victoire, c'est plus comme une marque parapluie où d'un côté, donc on a un volet axé sur le soccer, mais là, de plus en plus, et on a un volet axé sur le tennis. Donc, c'est deux sports dont dans l'équipe, on est tous de très grands fans.
Exact. Victoire Média se diversifie tranquillement. Merci beaucoup, LP. Super. Hugues, on te laisse aller aussi, puisque tu brasses des grosses affaires. Merci, les gars. On laisse aller le duo Victoire Média. Et puis moi, je vais continuer les prédictions avec Nicolas Richard.
Bonne journée, les gars. Bon tennis.
Bye-bye. Prédiction, plus un match à surveiller. Nico, ça te dérange pas de le faire juste avec moi? T'es pas trop intimidé?
Non, j'aime la compagnie de Hugues. Mais pour ce matin, on va faire avec.
Faut dire qu'on a quand même fait presque un an tout seul, les deux ensemble, quand même. Hein? Alors, ben écoute, j'ai envie de commencer à Toronto. On va surveiller d'abord et avant tout, dans quelques instants, au moment où vous allez écouter le podcast, Félix Auger-Aliassime, c'est la grande entrée en scène, va affronter Dusan Ljajovic. Tu vois ça comment, ce match-là, Nico?
Ben, j'ai vu des images, et sûrement toi aussi, là, des images de Félix à l'entraînement, et ça augure très, très bien. Il a l'air dans une forme splendide, même en entrevue, sa défaite à Tokyo n'a pas l'air de l'avoir trop secoué comme j'aurais pu le croire. On souhaite évidemment que Félix l'emporte, ce serait tellement, tellement chouette, puis il y a tellement des belles chances en plus. Là, quand Félix, on le sait, quand Félix est dans de bonnes conditions, il peut battre à peu près n'importe qui, et à la place de son opposant, j'aurais des craintes parce que je me répète, là, mais Félix, à l'entraînement, était monstrueux. Alors, ce sera tout un match à surveiller.
Bon, mauvaise nouvelle dans le cas de Félix dans ce match-up-là, ben, c'est que le seul match qu'ils ont joué un contre l'autre, c'était pas si longtemps, c'était en 2020 à la Coupe ATP. Ben, il avait perdu ce match-là contre Dusan Ajovic 6-4, 6-2. Bon, on se le cachera pas, Félix part quand même favori dans ce match-là pour l'instant. Il est quand même le 16e joueur mondial, mais je le dis souvent, même si un joueur est 44e, comme c'est le cas dans le cas de Dusan Ajovic, il faut pas oublier que les classements de l'ATP sont beaucoup plus serrés que ce que le monde peut penser. Ouais. Alors, 16-44, c'est pas un écart si marginal que ça. Ça va être un match qui va être compliqué. Je pense que Félix le sait. D'ailleurs, Nico, si ça te dérange pas, avant que qu'on passe au prochain match, j'ai pu parler à Félix un peu tôt cette semaine et je lui ai demandé de faire son bilan de saison, voir un peu dans quel état d'esprit il se place avant cette entrée en matière à l'Omnium Banque Nationale. Je te propose qu'on l'écoute.
Il y a de belles choses. Il y a des choses très encourageantes. Je pense qu'on peut toujours voir ce qui a été bien, ce qui a amélioré. C'est sûr qu'il y a des moments où est-ce que il y a des résultats que j'aurais espéré mieux. Mais après, c'est normal. Je veux dire, si chaque tournoi, j'étais satisfait de mon résultat, ben, je serais numéro un mondial ou numéro deux mondial. Tu vois, il y a toujours quelque chose de mieux à faire, puis c'est la beauté du sport. J'ai déjà fait de belles choses cette année. Là, on est un peu plus qu'à la moitié de l'année, puis il reste encore plusieurs tournois, donc je vais essayer de faire au mieux là, jusqu'à la fin de l'année.
Très lucide par rapport à sa saison. Hein. Je trouve que son évaluation, elle est exactement celle qu'on en fait, puis je veux dire celle que nous autres, on en fait, ça vaut bien ce que ça vaut, comme on dit, là. Mais il a raison, il a connu d'excellents moments. Je veux dire, il a eu des finales. Tu sais, on a l'impression des fois qu'il manque de constance, mais pour atteindre la finale d'un tournoi, il faut que tu sois constant. Il a perdu beaucoup de finales, et ça veut dire au moins qu'il s'est rendu en finale. Alors ça, il faut rappeler ça aux gens. Prédiction, Nico, pour ce match-là, est-ce que Félix va passer au prochain tour?
Oui, en 3-7, je pense, parce que ça reste quand même, tu l'as dit, un match qui ne sera pas donné. Ajovic qui a un bon service aussi. Je m'attends à un bon duel serré, mais je m'attends à ce que Félix l'emporte.
Et hey là, l'autre match qu'on va suivre, c'est une entrée en matière canadienne aujourd'hui, alors que Denis Shapovalov va affronter Francis Tiafoe. Et ça, c'est intéressant parce que Francis Tiafoe, il est rentré dans le tableau comme lucky loser. Et ouais, là, il a une chance peut-être de sortir son grand ami Denis Shapovalov. Je ne sais pas si tu as vu ça, l'ATP a publié une capsule pour dire que les deux se parlent souvent, se font des FaceTime ensemble, se textent souvent, ce sont des amis. En hors COVID, ils passent du temps ensemble. Ils ont à peu près le même âge, là, donc ils se connaissent bien. Francis Tiafoe, c'est un joueur très dangereux, là, 52e mondial, mais pensez pas que c'est pas un joueur qui peut sortir des grandes têtes de série. Il peut définitivement battre un gars comme Shapovalov. Est-ce que c'est un match qui t'inquiète, toi?
C'est pas un match qui m'inquiète, mais c'est un match qui m'intrigue énormément. D'une part, parce que Chapeau connaît une saison en dents de scie. On en a un peu moins parlé cette année. Il a connu une bonne saison sur gazon. Il y a quelques jours, Akstad, ça a été très, très, très décevant. Il était sorti de manière un peu précoce. Mais on sait à quel point Chapeau, à l'Omnium Banque Nationale au Canada, c'est un nouveau Chapeau. Il se nourrit de la foule. Il est chez lui. Il aime ça. Encore une fois, on s'appelle de son duel en 2017 contre Rafael Nadal. Mais de l'autre côté, Francis Tiafoe, on le dit, puis je suis content qu'on en parle, deux très bons amis. Donc, les deux se connaissent. Donc oui, l'affiche n'est peut-être pas à l'avantage de Tiafoe, mais il connaît les failles de Chapeau. Il sait comment les exploiter, il sait comment sortir Chapeau de sa game, si vous me permettez l'expression. Puis tu sais, Tiafoe a connu aussi un bon tournoi à Wimbledon. Ça m'intrigue beaucoup, beaucoup. Deux joueurs puissants, c'est évident qu'on aura tout un spectacle. Ne manquez pas ce match-là. Mais c'est pas gagné pour Chapeau. Tu fais bien de le dire, là, Tiafoe, c'est un joueur avec énormément de talent. Puis c'est un gars, on le répète à chaque fois qu'on en parle, mais c'est un athlète complet. Il le répète, joueur de basketball, joueur de football, joueur de baseball. Il peut tenir de longs matchs, surtout dans une chaleur accablante comme celle de Toronto. C'est un match qui m'intrigue beaucoup.
Un gars qu'on a déjà vu gagner le tournoi de Granby Nico, Francis Tiafoe. Bonne nouvelle, par contre, pour ce qui est de Shapovalov, ben il a gagné 4 des 5 derniers affrontements et surtout, il a gagné les 4 derniers. Ce sont des matchs assez récents. D'ailleurs, la dernière fois qu'ils se sont affrontés, c'était au tournoi de Queens sur gazon. Et Shapovalov avait quand même connu une bonne performance. Il avait battu 6-3, 6-4. C'est intéressant. Francis Tiafoe, bon, comme déjà, il est rentré dans le tableau comme lucky loser. Il a a battu Nishioka au premier tour, qui était un bon adversaire si t'as perdu en qualification. Là. Intéressant dans le cas de Francis Tiafoe et Shapovalov, match à surveiller. C'est pour l'essentiel ce qu'on va avoir à l'œil, nous, du côté de Toronto. À Montréal, évidemment, on va surveiller Rebecca Marino, Nico, qui affronte, je vais dire, une de tes joueuses préférées maintenant, Badosa. Tu vois ça comment, ce match-là?
Je le vois comme étant la fin ou la continuité de mon pool. Je reviens à ça parce que c'est quand même assez intéressant comme duel, en tout cas, d'un point de vue très personnel, parce que d'une part, je veux que Marino connaisse du succès, je veux qu'elle remporte, mais en même temps, si Marino l'emporte, Badosa, que j'avais mis en finale, ça gâcherait mon pool et mes prédictions, mais ce sera tout un duel. Deux joueuses puissantes, deux joueuses qui peuvent tenir le rythme longtemps. Je donne quand même un léger avantage à Badosa, qui connaît, je me répète, toute une année, une joueuse complète qui est bonne pour saisir les brèches que lui offre son adversaire. Évidemment, on souhaite que Rebecca connaisse tout un match. On la souhaite voir gagner, surtout à Montréal. Les gens semblent l'adopter de plus en plus. Là, ça fait deux jours qu'on parle beaucoup de Rebecca dans les différents médias. On parle de son histoire, on parle de son vécu, on parle de son bagage. Et on souhaite que ça se passe bien pour Rebecca, mais je m'attends à un duel très, très, très serré qui virera l'avantage de Badosa. J'en ai bien peur.
C'est possible. Badosa, elle joue très bien. Elle a connu de bons moments en Grand Chelem. Elle a eu une bonne saison de terre battue. C'est une fille classée 31e mondiale. Madison Keys était classée 26e. Il faut donner ses chances à Rebecca. Et comme je le mentionne souvent, si le service de Rebecca est là, elle peut embêter toutes les joueuses sur le circuit de la WTA. Ce qui est dommage, c'est que, dommage d'une certaine manière, si on est chauvin, c'est qu'elle arrive avec beaucoup de rythme. Badosa, elle a joué beaucoup, elle a avancé beaucoup dans les tableaux. Particulièrement récemment. On verra qu'est-ce que ça va donner dans le cas de Rebecca Marino. Il faut mentionner aussi que Badosa était aux Jeux Olympiques. Elle a quand même joué jusqu'à tard. Elle a fait les quarts de finale. Elle a eu une bonne performance aux Jeux Olympiques. Est-ce que le décalage horaire va encore être un facteur? Je ne sais pas. On verra. Il y aura peut-être un peu plus de fatigue. Rebecca, elle a beaucoup moins joué cette année que Badosa. Alors, au point de vue énergie, peut-être avantage Marino. Au point de vue rythme, avantage Badosa. Nico, on va aussi surveiller du coin de l'œil le match opposant 11 Jabeur à Daria Kasatkina, parce que ce duel-là va nous donner le prochain adversaire de Bianca.
Ouais, puis je ne sais pas ce que tu en penses, mais 11 Jabeur, j'adore la voir jouer de plus en plus. On l'a vu connaître un bon tournoi à Wimbledon. C'est une fille extrêmement forte physiquement. C'est une fille qui en impose beaucoup aussi. Tu l'as dit, duel intéressant, et j'ai l'impression que si jamais Rebecca l'emporte contre Badosa, ça pourrait être avantageux pour elle, parce que je m'attends à un duel long, serré et chaudement disputé. Donc peut-être que si Rebecca peut s'en tirer dans des délais assez brefs et que Jabeur, par exemple, l'emporte en 3-7 ou que Kasatkina l'emporte aussi dans un match long et serré, elles peuvent en laisser beaucoup sur le terrain, et je pense que c'est un avantage pour Marino d'avoir un duel si serré entre la Russe et la Suissesse.
C'est deux joueurs très proches au classement, 22e et 27e au classement mondial. Ons Jabeur connaît une bonne saison. On en a parlé à quelques reprises dans le podcast. Alors, ça va être intéressant de voir. D'une manière ou d'une autre, ce sera un match compliqué, un adversaire compliqué pour la gagnante, pour Bianca au prochain tour, ça c'est sûr. Et là, on le voit dans l'affiche. Ons Jabeur a remporté le dernier match. C'était cette année à Birmingham, qui est un tournoi, si je ne me trompe pas, sur gazon.
C'est bien tunisienne, Alex. Je m'excuse, je me suis fouillé. Non, j'ai dit la Suissesse en parlant de Jabeur, mais c'est bien une tunisienne. Je sais
pas pourquoi j'ai dit que le petit drapeau dans l'écran ressemble au rouge de la Suisse. C'est ce qui t'a confondu. Je te donne le bénéfice du doute. Nico, voilà, c'est ce qui fait le tour. On a déjà fait 52 minutes de mise en bouche. Pardon?
De podcasting,
effectivement, et de mise en bouche pour cette journée de Domnium Banque Nationale. Je t'invite à aller regarder les matchs en même temps que tu travailles, mon cher ami. Et sur ces sages paroles, je te donne, comme c'est la tradition, le mot de la fin.
Bon tennis, Alex. Bon tennis, tout le monde. Bon tennis aux gens de Hong Kong.